France Inter, 7h.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Mercredi 20 mars, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, l'étonnant sursis accordé par le pape au cardinal Barbarin qui choisit lui-même de se mettre en retrait du diocèse de Lyon. On voit ça, Agnès, avec vous après les autres titres.
L'État allemand demande des comptes à Airbus après l'échec de la 380. Une nouvelle condamnation pour Monsanto aux États-Unis. Paris, ville la plus chère du monde, ce sont les Anglais qui le disent. Et un cadeau pour finir, un millier de dessins de Wolinski en accès libre et gratuit.
Les invités de France Inter ce matin, bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas.
7h50.
Il a été rodin, il a été syndicaliste dans Anguerre, maître nageur engagé dans Welcome. Il revient en Casanova crépusculaire et éconduit dans Dernier Amour de Benoît Jacquot. Acteur essentiel du cinéma français, Vincent Lindon sera avec nous à 7h50.
A tout à l'heure, à 8h20, lui veut redéfinir le logiciel intellectuel idéologique de la droite. Il publie un livre, Refondation. Le sénateur Les Républicains Bruno Retailleau est l'invité du grand entretien de la matinale. Vos questions dès maintenant, standard ouvert, 01 45 24 7000.
France Inter.
Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Parole de l'Évangile selon saint Matthieu. Quelques jours après une conférence inédite au Vatican consacrée à la lutte contre la pédophilie au sein de l'Église, le pape François vient de prendre une décision qui provoque l'incompréhension. Le pape a en effet refusé la démission du cardinal Barbarin, condamné à 6 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les agissements d'un prêtre de son diocèse. Décision justifiée par l'appel déposé par le cardinal Barbarin, mais qui choque nombre d'évêques, Julie Pietri.
La conférence des évêques se dit étonnée, mais vous connaissez les euphémismes cléricaux. Chez nous, dire que l'on est surpris, cela veut dire que nous sommes catastrophés. Hors micro, plusieurs évêques ne cachaient pas hier au mieux leur incompréhension, au pire leur agacement. Il faut être clair, explique l'un d'entre eux. On se prend les pieds dans le tapis, nous sommes en droit de nous poser des questions sur l'âge du capitaine, sur sa connaissance et sur sa compréhension du terrain. Le capitaine, vous l'avez compris, c'est le pape. Si le Saint-Siège pouvait être plus clair dans ces décisions, nous y gagnerions tous, ajoute un autre, plus mesuré. Parce que là, après le sommet sur les abus sexuels au Vatican, nous faisons marche arrière. Quant à Philippe Barbarin, il a fait son maximum en se mettant à l'écart, analyse cette fois à haute voix l'archevêque de Strasbourg qui concède que la logique du pape n'est pas aisée à comprendre. Moi, ce que je ne comprends pas dans la vocation de la présomption d'innocence, ajoute un autre, c'est que de toute façon, ce ne sont pas les tribunaux qui vont dire au final si Barbarin est apte ou non à administrer son diocèse. Ça, c'est du ressort du pape.
Le cardinal Barbarin, qui a donc de lui-même annoncé hier sa mise en retrait, il délègue ses pouvoirs à son vicaire général, Yves Baumgarten. Cette décision du pape, après des paroles fortes pour dénoncer le fléau de la pédophilie, risque aussi de choquer une partie des catholiques français. C'est l'analyse de Nicolas Sénèze, il est correspondant du quotidien La Croix à Rome.
Cette décision du pape n'est pas vraiment une surprise au Vatican. On pouvait s'y attendre. Je crois qu'au Vatican, on n'a pas vraiment pris la mesure des faits reprochés au cardinal Barbarin, même si le tribunal qui l'a condamné a relevé des faits précis. Ici, on a tendance à penser qu'il est victime d'une cabale judiciaire, qu'il paye injustement les erreurs de ses prédécesseurs. Il y a la question de la tolérance zéro, même si les victimes ont plutôt tendance aussi à vouloir l'appliquer aux évêques qui auraient couvert ces abus. C'est pas vraiment la politique ici au Vatican. Et finalement, tout ça donne l'impression que le pape choisit l'affection qu'il a pour un homme qu'il estime, le cardinal Barbarin, plutôt que de lutter contre cette culture du silence contre laquelle il s'est pourtant élevé. Et peut-être qu'on a là une première fracture entre le pape et l'opinion publique catholique en France.
Un propos recueilli par Mathilde Imberti. C'est l'erreur de trop, a de son côté déclaré l'un des fondateurs de l'association La Parole Libérée, qui défend les victimes du père Prénat.
Il est 7h04, les députés ont planché une partie de la nuit sur la loi santé.
Et ils ont donné leur feu vert à une certification régulière des médecins, mais aussi des dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens. La mesure fera l'objet d'une ordonnance. L'Assemblée a également voté la suppression du numerus clausus pour les étudiants dès la rentrée 2020. En revanche, les élus ont supprimé le stage obligatoire dans les déserts médicaux entre le deuxième et le troisième cycle. Le projet de loi santé doit être ensuite examiné au Sénat. Airbus doit-il rembourser l'intégralité des sommes prêtées par l'État allemand pour financer l'A380, alors qu'un appareil est livré aujourd'hui à la compagnie All Nippon Airlines et qu'il reste 9 gros porteurs à terminer d'ici la fin du programme en 2021. L'Allemagne réclame donc des comptes, ne voulant pas faire les frais de l'échec de ce ce programme. Explication signée Philippe Lefebvre.
Pour lancer la construction de l'A380, les quatre pays partenaires, la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni, avaient mis la main au portefeuille pour prêter à Airbus 3,3 milliards d'euros. Était entendu à l'époque que le remboursement de ce prêt serait lié au succès commercial de l'avion. Seulement voilà, après le premier décollage du premier vol commercial de l'A380 aux couleurs de Singapore Airlines en 2007, eh bien le succès n'a pas été au rendez-vous. 274 appareils vendus, alors que le constructeur espérait en commercialiser 650. Alors une partie du prêt a bien été remboursée à la suite des premières ventes, mais le gouvernement allemand fait remarquer que le compte n'y est pas. Airbus devant encore 600 millions d'euros à Berlin. Mais Tom Enders, le patron d'Airbus, expliquait récemment qu'il s'agissait là d'un partenariat à risque. En clair, faute de vente, eh bien, les États partenaires pourraient perdre une importante partie de leur mise de fonds de départ, avec en prime un épineux dossier à régler, celui des 3 800 emplois dans les quatre pays partenaires, susceptibles d'être affectés par l'arrêt de la fabrication de l'A380.
Les entreprises qui le souhaitent ont jusqu'à la fin du mois pour verser à leurs salariés une prime exceptionnelle, non soumise à l'impôt et aux charges sociales. C'était l'une des propositions du chef de l'État pour répondre à la crise des gilets jaunes. Une mesure qui a jusqu'ici bénéficié à 2 millions de salariés qui ont touché en moyenne 450 euros. Acheter un billet de train via Messenger, la messagerie de Facebook, c'est désormais possible. La SNCF a signé un partenariat avec le réseau social et ses 35 millions d'utilisateurs français. Les horaires et les tarifs sont aussi disponible sur WhatsApp. 10 et 6 mois de prison ferme requis hier par le parquet de Lille à l'encontre des deux militants de la cause animale qui avaient incendié et attaqué durant des nuits une douzaine d'établissements, des boucheries ou encore des restaurants. Le jugement sera rendu le 8 avril, mais au-delà de la peine, les bouchers espèrent surtout pouvoir travailler en paix. Laurie Dick arrive.
Quand la présidente lui donne la parole pour un dernier mot, les larmes se mettent à couler sur les joues pâles et creusées de Mathilde. Je veux m'excuser, j'ai pris conscience que ça n'était pas la bonne manière de lutter, lâche la jeune auxiliaire de puériculture. Tout au long de l'audience, les militants ont fait part de leurs remords. Mais aux yeux du procureur, les faits sont graves, criminels même, avec ses cocktails Molotov et ses départs d'incendie. Il a requis 10 et 6 mois de prison ferme pour les deux principaux prévenus, du sursis pour les deux autres.
J'aurais préféré plus.
Laurent Rigaud est président des Bouchers du Nord.
J'espère quand même que la sanction sera à la hauteur et qu'ils iront un petit peu en prison pour comprendre, surtout pour les prochains, parce que j'espère que ça va s'arrêter maintenant. Voilà, si ça s'arrête, s'ils ont compris le message des artisans bouchers et des alimentaires, si ça s'arrête, on a réussi.
Pour l'avocat du syndicat, Damien Legrand, les peines requises sont raisonnables.
C'est un premier procès avec des gens qui n'ont pas de casier judiciaire, qui sont jeunes, il y a des regrets qui ont été affichés. On verra si c'est véritablement honnête de leur part et sincère sur ce qui va se passer ultérieurement.
Ni les prévenus ni leurs avocats n'ont souhaité s'exprimer avant le jugement qui sera donc rendu dans 2 semaines et demie. En mai, 2 autres militants antispécistes comparaîtront à leur tour devant le tribunal de Lille pour avoir vandalisé un restaurant, une poissonnerie et une boucherie.
Il est 7h08 et un nouveau revers pour Monsanto aux États-Unis.
Son produit phare, le désherbant Roundup, a été reconnu en partie responsable du cancer d'un septuagénaire californien. Et l'affaire ne s'arrête pas là, Éric de Salve est à San Francisco.
À l'unanimité, les jurés du tribunal de San Francisco estiment que le Roundup est un facteur substantiel dans l'apparition du cancer d'Edwin Hardeman. Pendant 30 ans, ce septuagénaire a pulvérisé l'herbicide de Monsanto à base de glyphosate dans sa propriété californienne. En 2005, les médecins lui diagnostiquent un cancer du système lymphatique. Un an plus tard, il porte plainte contre le géant de l'agro-industrie qui continue de jurer que son Roundup est inoffensif. Ce mardi, la justice américaine donne tort à Monsanto, ouvrant la voie à la seconde phase du procès, celle qui doit déterminer si la firme connaissait les risques et les a cachés au grand public. À ces deux questions, un autre tribunal de San Francisco a déjà répondu oui cet été, condamnant Monsanto pour la première fois 289 millions de dollars de dommages et intérêts, réduit à 78 millions en appel pour un jardinier municipal en phase terminale d'un cancer de la peau. Cette fois, les enjeux sont encore plus lourds car ce second procès se joue devant une cour fédérale. Son verdict devrait déterminer les indemnités de plus de 9000 autres malades qui, eux, aussi ont porté plainte contre Monsanto à travers tous les États-Unis. San Francisco, Éric de Salve, RFI pour France Inter.
Assaut d'amabilité sans précédent entre les présidents américains et brésiliens. Vous faites un travail formidable, a déclaré Donald Trump à Jair Bolsonaro. Donald Trump qui a provoqué la stupeur générale en évoquant une possible adhésion du Brésil à l'Alliance Atlantique. C'est un hebdomadaire britannique qui le dit. Paris est la ville la plus chère du monde, selon The Economist, qui publie tous les ans son baromètre. Et cette année, Paris rejoint donc tout en haut du classement les villes de Hong Kong et Singapour, passant en 2 ans de la 7e à la 1ère place. Béatrice Duguay.
Ce bond a plusieurs causes. Le coût de l'euro d'abord, dans le concert des monnaies internationales. Le coût des carburants aussi, le coût du logement et le coût de la vie tout court, précise Roxana Zvlacheva, l'auteur de l'étude.
Un verre de vin est bien sûr quelque chose qui, comme nous le savons, est tout à fait abordable et très bonne qualité. C'est quelque chose que vous trouvez abondamment et facilement dans les villes françaises. Mais ce que nous voyons de plus cher, de structurellement plus cher, concerne les produits ménagers et d'hygiène, particulièrement la catégorie des loisirs aussi. Par exemple, le prix du ticket de cinéma. Tout ce qui rentre dans cette catégorie devient certainement plus cher.
À Paris, par exemple, le prix moyen d'une bière est d'1,85€, bien moins qu'à Zurich ou Copenhague. Le prix d'un kilo de pain frôle les 5€, moins qu'à New York ou Séoul, mais le prix d'un costume ou d'une coupe de cheveux a bien augmenté. La place de théâtre n'est pas donnée, selon The Economist. L'indice comprend la nourriture, les boissons, les vêtements, les produits ménagers et d'hygiène, les loyers, les transports, les factures de services publics, les écoles privées et autres frais de loisirs. C'est un outil de ressources humaines, en fait, et pas un classement pour les touristes. Il sert à ajuster les indemnisations des expatriés et des voyageurs d'affaires.
Et l'autre surprise française est en Nouvelle-Calédonie. Nouméa en 20e position de ce classement, c'est à lire sur franceinter.fr. Classement aussi des meilleurs lycées de France, publié chaque année grâce aux données du ministère de l'Éducation nationale, à découvrir dans le journal de 8h. Voir et revoir pour le plaisir et avec un pincement au cœur les dessins de Wolinski, infatigable dessinateur de Charlie Hebdo, tué dans les attentats de janvier 2015. La Bibliothèque nationale de France vient de mettre en ligne via son site Gallica un millier de dessins de ceux que les artistes gribouillent sur le coin d'une table. Jacqueline Pétrose.
On arrive là sur le site d'Angelica.
Wolinski, conscient de l'importance dans la société du dessin de presse, avait déposé ses archives à la BNF en 2011. Et il est le premier contemporain dont une partie de l'œuvre est aujourd'hui numérisée.
Cette présentation est accessible pour tout le monde, dans le monde entier.
Plus de 50 ans de sa production sont en libre accès. Et parmi les dessins présentés sur Gallica, de nombreux étaient restés dans les cartons du dessinateur. Martine Mauvieux, conservatrice chargée du dessin de presse à la BNF.
Ce sont des études, des croquis, ce qu'on appelle parfois les échappées de Charlie Hebdo. Dans les réunions, ils font toutes sortes d'études. Et puis bon, après, le directeur en choisit un de préférence et les autres, il les garde. Parfois, des dessinateurs s'en débarrassent. Lui, il a gardé quand même pas mal de dessins.
Numériser le plus grand nombre de dessins de Daumier à Tim ou Wolinski, c'est voir concrètement l'évolution de la société. Martine Mauvieux.
Ce sont des œuvres qui ne sont pas a priori faite pour être gardée. On lit son journal, on rit, on apprécie et on jette le journal. En temps normal, c'est comme ça. Donc là, c'est quand même quelque chose d'important aussi de garder ces œuvres pour voir la logique de toutes ces œuvres faites au quotidien.
Ce millier de dessins de Wolinski rejoint donc les 5 millions de documents à portée de clic sur la plus importante bibliothèque numérique au monde.
Sur gallica.bnf.fr.
Merci Agnès Soubiran. Point route, Caroline Pommes, bonjour.
Bonjour.
Accident, Caroline, dans le sud de la France.
Oui, hein, sur l'autoroute A7 dans le Vaucluse, à hauteur de Bédarrides avant d'arriver à Avignon. Accident entre un poids lourd et une voiture. Attention, la voie de droite est neutralisée.